C'est un monde.
Marie-Hélène Fraissé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Bonsoir à tous. Ce soir, voyage dans les cartes. Ces cartes qui font rêver, mais qui révèlent et qui formatent en retour notre perception du monde. Nous sommes en compagnie de Jean-Marc Besse et de Gilles Tiberghien, tous deux philosophes et tous deux passionnés de cartes. Des GPS interactifs d'aujourd'hui jusqu'aux plus anciennes représentations du ciel, de la terre, des océans, des continents, des terres inconnues peuplées de monstres et de chimères, les cartes donnent à voir aussi bien notre planète dans son ensemble que notre environnement le plus immédiat, et en le faisant à chaque fois d'une manière bien particulière, car les cartes sont le produit de notre regard et en retour, elles le façonnent. Elles ne sont pas, disent Jean-Marc Besse et Gilles Tiberghien, des calques du territoire, mais des opérations mentales plus ou moins instrumentalisées. En prendre conscience est donc important, puisque nous manipulons constamment des cartes sans toujours percevoir les enjeux autour de ces cartes. C'est ce que vous écrivez dans la préface de « Opération cartographique » qui vient de paraître aux éditions Actes Sud, que vous avez dirigé tous les deux. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, il y a de gros enjeux autour de la carte. Il y a le plaisir dont on va parler, de se balader dans les cartes, mais il y a aussi de véritables enjeux sociaux et politiques.
Oui, absolument.
Jean-Marc Besse.
Oui, absolument. Effectivement, les cartes sont effectivement des objets de plaisir, de contemplation, de rêve. On en reparlera, je pense, mais elles ont également des effets, des usages. Dans bien des domaines. Bon, bien entendu, on pense immédiatement au domaine politique, au domaine militaire, parce qu'effectivement, dans ces domaines-là, historiquement parlant, et encore jusqu'à aujourd'hui, les cartes, la cartographie, les opérations cartographiques ont tenu une place extrêmement importante. Mais, dans des directions qu'on pourrait dire plus pacifiques, notamment par exemple pour ce qui concerne les aménagements de territoires, de villes, enfin les aménagements urbains ou les projets de paysage, puisque ce sont des choses qui nous intéressent également tout à fait de manière tout à fait particulière.
Oui, puisque vous êtes tous les deux associés, co-rédacteur en chef des carnets du paysage.
Absolument, oui, on aura l'occasion probablement d'y revenir. Dans tous ces domaines, dans tous ces univers, on se rend compte que les cartes, puisqu'en fait il faut, je pense, en parler au pluriel, les cartes interviennent et interviennent de manière parfois extrêmement puissante, parfois de manière extrêmement active. Et en fait, c'est ça qui nous a intéressés dans cet ouvrage, c'est de rendre compte. D'interroger, d'analyser la grande diversité de ces objets qui restent pour la plupart finalement assez énigmatiques. Et voilà.
Et vous le faites tous les deux en tant que philosophe, Gilles Tiberghien. Ce n'est pas tellement fréquent que les philosophes s'intéressent d'abord à l'espace, aux questions d'espace, et en particulier à la cartographie.
Non, sans doute pas. Je ne me rends pas bien compte, mais en effet, je vois qu'autour de moi, on n'est pas si nombreux. Et pourtant, ce sont des objets extrêmement spéculatifs, en fait. Et on voit bien par leur complexité, par aussi le caractère sensible et intellectuel de ces objets, que ce sont des mines d'interrogation, en fait, des sources inépuisables de questionnements et qui nous permettent de comprendre le monde et en même temps dans sonder les énigmes sans jamais les résoudre tout à fait.
Alors en préparant cette émission, je me suis aperçue moi-même, c'est le but hein, de votre ouvrage, à quel point on navigue quand on est au milieu des cartes dans des univers codés, encodés, conventionnels. Par exemple, je me suis rappelé une carte que j'avais vue en Australie, où l'Australie était le centre du monde. Donc déjà, il y a la question du centre qui se pose dans une carte. Nous sommes habitués aux cartes avec l'Europe pour centre, et même, en gros, le centre, il est quelque part entre la France et l'Angleterre.
Oui, absolument. Oui, oui, effectivement, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est tout à fait important, c'est que on pourrait dire tout simplement qu'il n'y a pas de carte exacte. Hein, et que donc toute carte est l'expression d'une lecture du monde, d'une volonté de l'interpréter ou de le faire interpréter d'une manière particulière. Donc une production qu'on pourrait dire pas vraiment subjective, parce que il y a beaucoup de codes qui interviennent, qui vont formater effectivement l'objet cartographique lui-même, mais une production, comment dire, socialement déterminée, ou politiquement même parfois déterminée. Vous évoquez la question du centre, effectivement. Bah oui, les maps mondes produites en Europe occidentale depuis le 16e et le 17e siècle ont pris l'habitude de placer, en gros, l'espace, on va dire, atlantique, et plutôt l'Europe occidentale, au centre de la carte, et avec les effets visuels et symboliques que vous pouvez imaginer. Mais, en fait, ça n'a pas toujours été le cas.
Hein. Et est-ce que c'est remis en cause, par exemple, par les Chinois aujourd'hui ?
Eh bien, j'allais y venir, dès le 17e, 18e siècle, plus précisément, et en vérité, plus au 19e, on voit beaucoup de cartes japonaises, par exemple, en tout cas produites en Extrême-Orient, qui déplacent le centre et qui mettent effectivement l'Extrême-Orient au centre de l'image. Mais c'est le cas même dans les grandes époques de la domination européenne du monde, je veux dire, ou dans les grands projets de domination à la fois politique et cartographique du monde, au XVIIe siècle, par exemple, ou même au XVIe siècle, des cartes produites en Inde, à Goa plus précisément, par des cartographes, on va dire portugais, ou en tout cas de langue portugaise, mais parfaitement à la fois adaptées à l'univers dans lequel ils vivaient, et finalement assez éloignées des perspectives impériales portugaises, eh bien, ont tendance, quand ils font des atlas ou des maps-mondes, à relativiser de beaucoup la place de l'Europe et du Portugal en particulier.
Voyage aujourd'hui dans tout un monde à travers l'Empire des cartes, en compagnie de Jean-Marc Besse et de Gilles Thiberguien, tous les deux philosophes et amoureux des cartes, qui publient Opération cartographique chez Actes Sud. Alors on va pas résister au plaisir d'aller voyager dans ces mondes inconnus qui apparaissent de manière si imagée sur les cartes à une certaine époque, puisque tous les deux vous êtes baladés, vous avez été amoureux de cartes et d'estampes et de cartes anciennes. Alors parlons un peu de ces cartes qui sont le fait de véritables artistes, ce qui va disparaître cette approche artistique pendant une période d'un ou deux siècles. Mais il y a une sorte d'âge d'or de la carte qui serait quand ? Qui serait au moment des découvertes, Gilles Thiberguien ?
Oui, peut-être qu'on peut dire que c'est à la Renaissance que les cartes sont les plus splendides d'un certain point de vue, et qu'en même temps elles commencent à acquérir une très grande précision, même si elles vont devenir de plus en plus avec les techniques modernes qui du coup n'auront rien à envier à ces cartes. Mais néanmoins, c'est en tout cas cette époque que les artistes travaillent en collaboration, très intimement avec les géographes, pour élaborer ces cartes qui sont en fait le produit de toute une chaîne d'opérations. Il n'y a pas un seul cartographe. Enfin, en tout cas, s'il y a une main finale, il y a beaucoup de gens intermédiaires qui travaillent. Mais les artistes participent à tout ça. Léonard de Vinci, par exemple, ou d'autres. Et cette activité commune, disons, elle se dissout progressivement. Comme vous le dites, en effet, aujourd'hui, on voit un regain d'intérêt pour les cartes chez les artistes contemporains en particulier, même si en fait on voit ça au début du XXe siècle, et pour des raisons assez différentes.
Alors pour rester à cet âge d'or des cartes, on voit qu'il y a des formes d'autodérision dans votre livre, puisqu'il y a une carte absolument extraordinaire, elle appartient au genre des cartes qu'on appelait cordiformes, donc qui était toute une série de cartes avec une projection très particulière, on va peut-être pas développer, et c'est un fou avec son chapeau, avec ses grelots, et à la place de son visage, il y a une carte cordiforme du monde. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce sont des cartographes de l'époque qui se sont moqués d'eux-mêmes, Jean-Marc Bess.
En fait, il faut bien comprendre que ce qu'on appelle habituellement carte, et a fortiori pour ce qui concerne les époques que vous mentionnez, enfin l'époque à laquelle cette carte a été produite, c'est-à-dire...
Les grands voyages.
Oui, la fin du XVIe siècle, en fait, ce sont également des images, et des images complexes, qui véhiculent des formes de signification, des niveaux de signification différentes. C'est-à-dire que on parle bien entendu du monde tel qu'on peut le connaître ou le penser à ce moment-là, mais on parle aussi, enfin, les géographes, le mot cartographe n'existe pas à l'époque, hein. Le mot cartographe va apparaître au cours du 19e siècle, hein. Donc on est géographe, et les géographes sont en même temps des philosophes, au fond. En tout cas, des intellectuels, des humanistes qui sont animés de motivations qui ne sont pas simplement des motivations destinées à la représentation du monde terrestre, mais qui sont aussi des motivations qui les conduisent à réfléchir d'un point de vue moral sur ce qu'il
sur
en
l'autre.
Est. Voilà, sur les autres, sur eux-mêmes, et sur les relations qu'ils peuvent entretenir en tant qu'Européens, justement, avec les peuples et les peuples nouveaux qui viennent d'être rencontrés et qui animent.
Hein. Et qui figurent dans la carte, puisque ces cartes sont peuplées d'êtres parfois monstrueux. Donc on y voit fleurir ces personnages qui sont dans la lignée de Mandeville et de Marco Polo, c'est-à-dire ces personnages unipodes avec le pied au-dessus de la tête, avec la tête au milieu de la poitrine, et sinon des hommes à tête de chien. Donc l'autre est, pendant toute une période, l'autre va être sur les cartes, d'abord pour occulter les blancs, souvent, on ne sait pas. Donc on met un petit personnage, et puis pour montrer quand même la sorte de frayeur, quand même, d'inquiétude que provoquent ces mondes nouveaux et ces êtres dont on ne sait pas s'ils sont humains, infra-humains.
Disons que c'est une affaire un peu complexe, parce qu'en fait, ces personnages effectivement monstrueux, d'une certaine manière, sont des personnages qui en même temps sont bien connus et depuis fort longtemps par le biais de, je dirais, la transmission de la littérature de l'Antiquité. Et donc, tout se passe comme si, au fond, les explorateurs, enfin, le terme est un peu anachronique, enfin, les découvreurs de nouvelles terres, finalement, et les géographes qui vont les traduire dans leurs cartes, vérifiaient la pertinence des textes anciens. Et puis, exactement au même moment, c'est un peu comme vous le dites, effectivement, on découvre des choses nouvelles, inattendues, qu'on a du mal à penser, et qui, à partir de ce moment-là, vont être de puissants véhicules de l'imaginaire.
Alors, il y a deux types de cartes, finalement, à ces époques de découverte. Il y a celles-là qui sont plutôt destinées, on va dire, au public lettré. Et puis, il y a les cartes vraiment opérationnelles, c'est-à-dire les cartes pour les marins, pour les voyageurs, puisqu'ils sont souvent marins, ils sont souvent sur l'eau, soit à travers les océans, soit ils remontent les cours d'eau.
Oui, alors, il existe aussi les... Bon, c'est l'époque des portulans, ce qu'on a appelé les portulans tardivement d'ailleurs, parce que le mot n'existe pas à l'époque, c'est un terme du 19e. Mais ce sont des cartes qui représentent largement le bassin méditerranéen et un peu plus l'océan Atlantique de l'Est, disons, mais qui représente, comme vous le disiez, les côtes. C'est essentiellement les traits de côte qui sont qui figurent avec les noms qui sont perpendiculaires à ces traits de côte et qui sont le tout porté sur des fonds avec ces systèmes qu'on appelle les martelloires et qui permettent aux navigateurs de s'y repérer, de s'y retrouver.
Et c'est opérationnel ?
Oui, oui.
Ou c'est très approximatif ?
C'est opérationnel, même si, quand on les regarde, d'ailleurs, on comprend très bien de quoi il s'agit. Hein. Aujourd'hui, nous, contemporains, alors évidemment, il y a des choses approximatives, parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que nous, mais ils ont quand même des instruments de navigation très perfectionnés, qui vont aller se perfectionner de plus en plus. Alors ça, c'est une autre histoire, c'est l'histoire des techniques de navigation. Mais déjà, à l'époque, c'était assez surprenant de voir, en tout cas pour le bassin méditerranéen, parce que pour l'Afrique, c'est très différent, mais à quel point ils ont pu être précis quand même.
Parce que l'Afrique est encore en partie inconnue, donc on invente. Quand on ne sait pas, on invente.
Oui, c'est l'idée des Hic sunt leones, là sont les lions. Au-delà de ces terres, on a des cartes de l'Afrique où on voit que l'Afrique s'arrête en Afrique du Nord. Ça s'appelle la Libye. Bon, la Libye qui n'a rien à voir avec notre Libye, enfin, ou très peu. Mais après, on ne sait pas, parce qu'on n'a pas dépassé le Cap de Bonne-Espérance, on ne sait pas, on ne connaît pas le Sud.
France Culture, tout un monde, Marie-Hélène Fraissé.
Dans tout un monde, balade dans l'univers des cartes en compagnie de Jean-Marc Besse et Gilles Tiberghien. Alors on privilégie les cartes anciennes parce que c'est vrai qu'elles font fonctionner l'imaginaire. Et ce qui est magique dans ces cartes et dans votre livre Opération cartographique, vous en reproduisez quelques-unes, c'est que véritablement on se balade dans la tête des gens de l'époque. Il y a rien qui restitue aussi bien la perception qu'ils avaient du monde.
Oui, absolument, oui, c'est tout à fait ça. On disait tout à l'heure, voyez, bon, effectivement, les cartes représentent les territoires, mais elles représentent toujours avec un décalage, une inexactitude, mais une inexactitude qui nous intéressait parce qu'elle est fructueuse, parce qu'elle est créatrice. Dans ce décalage, justement, qu'est-ce que le géographe ou les fabricants de cartes, je le disais tout à l'heure, effectivement, les cartes sont des productions qui sont des productions généralement collectives, hein, dans lesquelles interviennent non seulement celui qu'on appelle le géographe, mais aussi toute une série de personnes, toute une série de métiers qui vont du dessinateur au graveur, à l'éditeur, à l'imprimeur, toutes ces personnes, aux dessinateurs de cartouches, aux dessinateurs de lettres, aux coloristes, etc. Toute une série de personnes qui ont et eux-mêmes leur motivation. Hein. Et alors, donc, qu'est-ce que on voit dans ces cartes? Effectivement, comme vous le disiez, on voit ce que les gens ont dans la tête et ils ont beaucoup de choses dans la tête. Ils ont beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement tout un ensemble de représentations sur ce qu'il en est du monde, bien sûr, et de son organisation, sur ce qu'il en est d'eux-mêmes, sur ce qu'il en est des autres peuples, effectivement, et aussi sur autre chose aussi. Ils ont aussi dans la tête, et ce qui est bien montré, je pense, dans certains articles qui compose ce livre, ils ont aussi toute une série de représentations concernant les valeurs, concernant les sentiments, concernant les émotions. Par exemple, il y a un chapitre qui est consacré véritablement à la cartographie de type allégorique. Hein, on connaît la très célèbre carte
du Tendre.
De Tendre.
Ah, de Tendre.
De Tendre, dit-on. Et, mais à côté de cette carte, on va dire, originaire, il y a, à la suite de cette première carte, il y a toute une série de productions cartographiques du même genre, y compris très tardivement. Oui, vous disiez tout à l'heure, effectivement, il y a eu une sorte de disparition progressive de la place des artistes à partir du XVIIIe siècle dans la production cartographique. Il y a en fait l'apparition, effectivement, de deux cultures, une cartographie de type plutôt scientifique et technique et une cartographie qui va continuer d'exister, qui va être une cartographie morale, une cartographie religieuse, avec beaucoup de cartes qui, par exemple, cherchent à illustrer, si je puis dire, illustrer les parcours spirituels, hein, qui cherchent à représenter les difficultés qu'un être humain peut avoir dans l'orientation de son existence vers le bien ou vers le mal, etc. etc.
Il y a des cartes qui représentent ça,
absolument,
spécifiquement.
Absolument.
Oui, il y a l'article d'ailleurs de Gilles Palski qui s'appelle « Amour sacré, amour profane, l'espace des cartes comme allégorie » qui développe ça avec une iconographie appropriée.
Le voyage de la vie et le voyage du pèlerin, par exemple, de John Bunyan, qui a été l'objet de beaucoup de cartes. C'était un livre très, très lu dans le monde protestant, anglais notamment. Oui. Ouais. Alors, ce qui est étonnant aussi, quand on feuillette ces cartes et qu'on regarde vos commentaires, c'est à quel point tout le monde recopie tout le monde et à quel point les termitiques, par exemple, se reproduisent. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tous plagiaires, les cartographes, jusqu'au jour où il y en a un qui arrive et qui dit « moi, j'ai une nouvelle information », etc. Alors, on voit par exemple, et il va y avoir d'ailleurs un livre qui va paraître, de l'historien de la marine Dominique Lebrun, au mois d'avril, là-dessus, on voit apparaître pendant pratiquement 3 siècles d'affilée, une énorme terre australe qui occupe presque tout l'hémisphère sud, qui, à certains moments, monte quasiment jusqu'à l'équateur, et qui est totalement fantomatique. Et pendant 3 siècles, on va reproduire ça. C'est quand même extraordinaire.
Oui, parce que les géographes se fondent sur des informations données par des voyageurs. Donc, ils ne vont pas sur le terrain la plupart du temps. Même pratiquement jamais. C'est un homme de cabinet, le géographe qui va reproduire les cartes. Et donc, ils dépendent, ils sont tributaires de ces explorateurs, voyageurs, à la morale parfois douteuse, et qui vont vouloir faire des coups, comme on dirait aujourd'hui, et donc rapporte des informations comme le baron de La Hontan, par exemple, qui découvre une rivière qu'il appelle la rivière Longue, au large, enfin, à l'ouest du Mississippi. Il donne tellement d'informations précises, hein, il en écrit un livre entier sur ces Indiens et sur cette existence de cette rivière, que ce cartographe qui était de l'île, très célèbre à l'époque, grand cartographe du roi, va reporter sur sa carte le tracé de cette rivière, marquant évidemment la source, indiquant que ça vient de La Hontan, mais néanmoins, il le crédite.
Mais ça veut dire qu'il y a une crédulité du public.
Forcément, il y a une crédulité. Et non seulement il y a une crédulité, mais notre hypothèse, c'est qu'il y a un désir même. Je pense que les gens veulent ce genre d'histoire. Et que même quand elles vont être invalidées, ils continueront à y croire. Donc il y a en fait, vous parlez de cet imaginaire qui concernait les monstres ou les êtres fantastiques. Il y a aussi un imaginaire des territoires inconnus qui fascine en fait.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Voilà, non, ce n'est pas une musique hors sujet, c'est la musique du film Docteur Follamour, qui a derrière lui cette immense carte qui clignote. Alors, effectivement, les cartes sont un objet de rêverie, mais les cartes ont un aspect plus manipulatoire et plus dangereux. Et en vous écoutant tout à l'heure, j'ai pensé aux cartes qui étaient celles des écoles, peut-être juste après la guerre, qu'on voit encore de temps en temps circuler dans les vide-greniers, les cartes de Vidal Lablache, etc. Et là, on voit l'empreinte de la vision coloniale. On n'est plus du tout dans la carte d'artiste, la carte rêverie, on est dans la carte de la domination qui s'exprime sans contre-discours.
Oui, bien sûr. Il y a une implication politique importante et ancienne de la cartographie. Alors, pour différentes raisons, mais en particulier parce que les cartes, en tant qu'image, précisément, elles donnent une image au territoire, par exemple au territoire de la nation ou au territoire de la République. Elles constituent finalement une sorte de point de visibilité, d'accroche visuelle, d'inscription visuelle aux réalités le plus souvent fantasmées, fantasmatiques, que sont les réalités politiques. Il est bien connu, par exemple, que les cartes, pour reprendre l'exemple que vous évoquiez, les cartes ont joué un rôle très important dans les affirmations nationales au XIXe siècle. Et bien entendu, dans les entreprises coloniales et impériales.
Alors, je pense à ces grandes cartes, par exemple. J'en ai vu une récemment. On voit l'Afrique. On voit, alors, Afrique occidentale française. Et on voit des grosses flèches en direction de la France, par exemple, de la Côte d'Ivoire vers la France, cacao. Donc, oui. Voilà, c'est l'image de l'exploitation.
Il y a ça, bien entendu. Et puis, il y a toute une série d'autres types de codes, si vous voulez, hein, qui sont chargés de véhiculer des messages de ce genre, comme le code des couleurs, par exemple, hein, qui est très puissant, y compris à l'époque contemporaine, en vérité. Mais alors, la vraie question, c'est de savoir pourquoi, ou plutôt, qu'est-ce qu'il y a dans, je dirais, la carte, dans la cartographie, dans cette activité tout à fait singulière, qu'est-ce qui permet ça? Voyez. Et alors, ce qui nous a intéressé précisément, c'est de revenir même. On pourrait partir des premières réflexions d'un des premiers intellectuels, théoriciens de la carte, qui est Ptolémée. Hein, on est au deuxième siècle après Jésus-Christ et qui justifie l'existence des map mondes de la manière suivante, très simple. Il disait, mais en fait, la carte, et en l'occurrence la map monde, nous montre à nous humains ce que nous ne pouvons pas voir ailleurs que dans la carte. C'est-à-dire que les cartes ont cette puissance extrêmement importante, finalement, de rendre visible toute une série de valeurs qui, la plupart du temps, sont invisibles. Et les valeurs politiques, par exemple, hein, qui sont des valeurs abstraites, pensons au thème de la nation, hein, eh bien, sont portées par des cartes et inscrites dans des cartes. Et c'est très, très vrai aujourd'hui. Ça l'était encore plus à la fin du 19e, au début du 20e siècle, on le sait.
Donc, regarder les cartes de ce point de vue critique est très important aujourd'hui.
C'est fondamental.
Oui.
C'est fondamental.
Et ce à quoi invite donc cet ouvrage, Opération cartographique, donc, où vous avez tous les deux écrit. Et où, alors évidemment, on n'a pas le temps de parler de tous les types d'approches. Je signalerai une carte qui m'a particulièrement réjouie, c'est celle de Lewis Carroll, qui représente l'océan. C'est un rectangle et il n'y a rien dedans. Et puis, il y a aussi des représentations de certaines cartes qui sont très émouvantes. Par exemple, la carte des Polynésiens, ces cartes de navigation.
Oui, ce sont des cartes qui étaient... en fait, ce sont des treillis de brindilles, en quelque sorte, de petits morceaux de bois sur lesquels, enfin, qui sont tissés, enfin, attachés... sur lesquels on voit des coquillages indiquant les îles. Et en fait, ces cartes sont faites en fonction du ressac de la mer. Donc, c'est par rapport au mouvement des vagues que l'on s'oriente. Et elles sont lisibles seulement par celui qui va embarquer, puisqu'elles ne sont pas destinées à être prises dans les bateaux. En plus, elles sont accompagnées généralement d'un champ. Et c'est la longueur de ce champ qui conduit les navigateurs ou conduisait les navigateurs sur ces flots et sur ces îles.
Merci à tous les deux, Jean-Marc Bess, Gilles Tiberghien. Beaucoup d'enjeux, donc on l'aura compris, autour de ces cartes. Alors, à lire, Opération au pluriel cartographique, ça vient de paraître aux éditions Actes Sud. À lire également vos merveilleux carnets du paysage, et dont le dernier est consacré à une grande figure du paysage.
Oui, John Brinker of Jackson, qui était un grand théoricien du paysage américain.
Voilà, et puis ça peut aussi éclairer cette journée de France Culture, et même ce week-end qui est, comme vous le savez, consacré au jardin sur France Culture, samedi et dimanche. Tout un monde, le magazine des cultures se termine. À la prise de son, Cédric Châtelu, à la réalisation, Vanessa Nadjar. Tout un monde, chaque samedi, avec la collaboration de Claude Armand de Castillo, vous est proposé par Marie-Hélène Fraisset, à consulter sur le site France Culture, à la page Tout un monde, donc la très riche bibliographie de nos deux invités. Merci à tous les deux. Sur France Culture, où nous attend Vincent Charpentier. Bonsoir Vincent.